6h47 minutes. Allez, on met nos raquettes avec vous, Thierry Garcin, pour partir vers l'Arctique.
Et votre bonnet et vos gants, effectivement. Donc, on va parler des intérêts prioritaires en Arctique de la Norvège. La Norvège occupe une place géographique singulière. C'est un promontoire de l'Europe. La Norvège est frontalière de la Russie. Elle est relativement proche du Groenland, avec sa possession du Svalbard, qui culmine à quelques 80 degrés de latitude et l'ouvre sur la mer de Barents, partagée avec la Russie. Un tiers du territoire terrestre de la Norvège se trouve au-dessus du cercle polaire. 80% du trafic maritime arctique passe par les eaux norvégiennes. La ville de Tromsø, au nord de la Norvège, accueille chaque année, et c'est pour la 9e fois en 2015, elle accueille chaque année le grand colloque international Arctic Frontiers, plus de 1400 invités que nous avons pu suivre. Alors on va voir effectivement quels sont les intérêts prioritaires de la Norvège avec Rolf Einar Fife, qui est d'abord ambassadeur de Norvège en France, qui avait été en charge des négociations de traités de frontières maritimes, notamment en 2010 avec la Russie dans la mer de Barents et l'océan Arctique. Et puis on mentionne que demain à l'IFRI, et co-organisé d'ailleurs avec l'ambassade de Norvège, il y aura un séminaire à Paris sur l'Arctique. Alors Rolf Einar Fife.
Pour la Norvège, l'Arctique, c'est pas quelque chose de lointain, c'est nous y vivons. C'est une grande proportion de notre territoire se trouve en Arctique, et au nord du cercle polaire, en tout il y a 4 millions d'habitants, dont un demi-million, c'est des Norvégiens. Et pour nous, donc, les enjeux, c'est la stabilité, la coopération internationale, c'est la protection de l'environnement, mais c'est aussi la gestion responsable des ressources, la création d'emplois.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, il faut regarder pour la Norvège, il faut regarder la géographie d'abord, parce qu'elle est dans un espace de jointure précisément entre, évidemment, le passage du Nord-Est, qui est plus ou moins d'ailleurs utilisé pour le commerce maritime international, donc le long de la façade arctique de la Russie. Et puis, elle est évidemment un élément clé de la géographie européenne, du vieux continent. Elle regarde d'assez près, finalement, le continent nord-américain. Il y a le Groenland, etc. C'est une sorte d'ailleurs presque de promontoire, c'est-à-dire, ou de balcon. C'est une image évidemment imparfaite.
Oui, je crois que l'idée d'un balcon est tout à fait appropriée, parce que c'est un endroit où nous voyons les effets des changements climatiques globaux. Si vous voulez, on identifie dans l'Arctique les effets du réchauffement de la planète de façon très visible. Donc ça, c'est un aspect important de l'Arctique. Mais sinon, je crois qu'il est important de relever que nous avons beaucoup d'activités dans cette région, des activités depuis très longtemps, bien avant l'engouement actuel que nous voyons dans pas mal de pays européens pour l'Arctique. L'Arctique, nous y vivons. L'Arctique, c'est un endroit où nous avons assuré une gestion de pêche très efficace, même pendant la guerre froide, où Union soviétique et Norvège n'étaient pas nécessairement d'accord sur toutes les questions concernant les approches ou l'idéologie politique, on arrivait à se mettre d'accord sur une gestion des stocks de poissons de façon très efficace. Et ceci a fait que nous pensons pouvoir dire que l'Arctique, c'est des hautes latitudes, mais ça a toujours été de la basse tension.
Alors justement, quel est le regard que vous portez en Norvège sur précisément les dossiers clés qui peuvent être des dossiers difficiles à traiter? Vous avez remarquablement traité le dossier avec la Russie en 2010 avec un accord justement sur une zone maritime contestée et qui était importante aussi pour la pêche. Et quel regard portez-vous sur ces possibilités de crise et ce qui est très frappant pour la Norvège quand on regarde un peu dans le temps long son activité, c'est son souci très essentiel, d'ailleurs capital, de coopération internationale. Rolf Einar Fife.
Tout à fait. Écoutez, messieurs Garcin, nous sommes en fait relativement fiers du fait que nous avons résolu toutes les questions de frontières avec nos voisins. Toutes les frontières maritimes, plateau continental, zone de 200 milles marins. Nous avons aussi, depuis très longtemps, une coopération de garde-côte efficace. Et nous avons des accords entre États voisins qui mériteraient d'être étudiés dans d'autres régions du monde. Par exemple, pour la morue, nous avions en 2013 et dans les années qui suivent à peu près 1 million de tonnes de morue qui sont pêchées. Alors, je voudrais simplement identifier tout ce qui est positif dans l'Arctique, parce qu'il y a des enjeux, oui. Les enjeux sont dus au changement climatique. Ils ne sont pas dus aux activités dans l'Arctique. Mais évidemment, dans nos activités dans l'Arctique, nous voyons des objets d'études qui sont utiles pour le monde entier. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 1973, les 5 États limitrophes à l'océan Arctique ont protégé l'ours polaire par un accord, la Convention d'Oslo, qui a été très efficace. Maintenant, l'ours polaire, il est menacé non par la chasse, mais par la réduction de la banquise, la réduction de son habitat naturel, de son environnement naturel. C'est pour ça qu'une solution s'impose à la COP21, à la grande conférence qui va se tenir au Bourget, en dehors de Paris, en décembre 2015. Et la Norvège donne son plein soutien à la France dans les efforts pour aboutir à un accord contraignant.
Alors, en ce qui concerne évidemment les hydrocarbures, c'est un souci pour vous, c'est un souci d'ailleurs côtier, puisque vous avez réussi à un moment donné à repousser ce que nous appelons le rail, donc maritime, un peu plus loin de vos côtes, vos si belles côtes, mais qui sont extrêmement dentelées et très vulnérables s'il y avait un jour une marée noire. Et d'autre part, le rôle des gardes-côtes est très important d'ailleurs en matière de sauvetage et de sauvetage et de recherche sauvetage. Et ces hydrocarbures, il y a eu un effet d'emballement vers 2008 à peu près, au moment où les Américains ont dit il y a peut-être beaucoup de réserves non prouvées, mais de gaz et de pétrole. Et on a vu que Total, par exemple, la compagnie française Total, renonçait définitivement à explorer ou exploiter du pétrole à très haute latitude, compte tenu du cauchemar que ce serait en cas de pépin, en cas d'ennui.
Écoutez, nous avons déjà une production importante dans le Grand Nord, une exploitation d'hydrocarbures, ayant investi beaucoup dans la recherche et développement. Imaginez qu'il y a même un gisement que nous appelons Snøhvit, ça veut dire Blanche-Neige, qui n'a pas de plateforme, mais simplement des systèmes que nous appelons subsea, c'est-à-dire où nous avons des installations sur le fond marin et les installations sont sur terre. Donc il y a quelque chose de visionnaire dans l'approche technologique dans ce secteur et nous avons l'habitude d'avoir des débats très approfondis sur la question de savoir comment réconcilier la recherche dans le secteur pétrolier avec toutes les autres activités, pêche inclus et protection de l'environnement. Donc nous ne pensons pas qu'a priori il est impossible de réconcilier ces activités. Mais il faut le faire d'une façon très très responsable et ça c'est le souci majeur des autorités norvégiennes.
Alors évidemment, la question du gaz ne soulève pas toutes ces difficultés par définition de risque de marée noire.
Non, ce qui est, selon toutes les indications, le risque majeur, c'est toujours le transport. Ce sont les navires. C'est pour cela que c'est un Norvégien qui a présidé le groupe de travail au sein de l'Organisation internationale maritime à Londres, qui travaille en ce moment même sur l'élaboration d'un code polaire. Le code polaire, c'est un accord qui va être contraignant pour tous les navires du monde qui veulent naviguer dans les eaux polaires. Et nous sommes très, très enthousiasmés par le fait qu'il semblerait possible de se mettre d'accord sur des mesures qui vont accroître la sécurité maritime dans ce secteur. Parce que vous avez tout à fait raison, ce sont les navires, ce sont les pétroliers qui peuvent constituer un risque de pollution. Et nous sommes très, très concernés par cette affaire. 80% de tous les transports maritimes en Arctique passe au travers des espaces maritimes norvégiens. 80%. Comparez un peu la Bretagne, si vous voulez, et la position de la France par rapport aux transports maritimes qui vont aboutir à Anvers ou Rotterdam. Vous voyez qu'il y a des enjeux majeurs dans la sécurité maritime.
Alors, Rolf Einar Fife, je rappelle que vous êtes ambassadeur de Norvège à Paris. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un phénomène d'emballement, effectivement, à l'égard de l'Arctique aux alentours des années 2008, 2009, 2010, et que maintenant, de temps en temps, à cause des projets qu'on prête aux Russes, à cause sur le plan militaire, etc., il y a une période souvent de dramatisation. Et il faut dire, d'ailleurs, ça, c'est souvent la grande presse qui a tendance, comme ça, à, comment dire, exagérer un certain nombre de dossiers.
Monsieur Garcin, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il y a raison de dédramatiser pas mal de récits de ce qui se passe. En fait, Dans les années que vous avez mentionnées, plusieurs États côtiers, dont la France, étaient engagés dans la définition, la mesure de leurs plateaux continentaux, parce qu'il y a un délai qui est imposé par la Convention sur le droit de la mer. Et ce n'est donc pas une course pour exploiter le pétrole, mais c'est plutôt un travail pour définir les plateaux continentaux. Et qu'on ait pratiquement fini du côté norvégien, on a totalement fini, et pas mal d'autres pays arctiques sont en train de finir ce travail qui délimite les responsabilités de chaque État côtier, c'est quelque chose de très positif. Que quelqu'un plante des drapeaux, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Nous avons vu ça comme un exploit technologique et humain.
C'est ça, c'est un batiscaf, en tout cas un petit engin piloté par des Russes, donc, qui a planté en 2007, sauf erreur, un plateau par 4000 mètres de profondeur, mais à la verticale, pour ainsi dire, du pôle Nord. C'était une sorte d'acte politique russe.
Oui, écoutez, on plante le drapeau sur le mont Everest toutes les semaines. Nous avons planté le drapeau norvégien pas mal d'endroits. Il n'y a rien de dramatique dans cela. Ce qui est important, c'est le droit international, c'est la coopération internationale, c'est la coopération surtout dans la recherche scientifique et la protection de l'environnement. Ceci est vraiment clé pour le futur de l'Arctique.
Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui, peut-être en marque de conclusion, c'est ce qui marche très bien, c'est les intérêts croisés des scientifiques d'un pays à l'autre et la coopération internationale, pour des raisons d'ailleurs dues à l'ampleur de la recherche et la difficulté et aux contraintes de la recherche, qui fait la coopération internationale scientifique, c'est quelque chose de très réussi depuis longtemps.
C'est formidable. Écoutez, il y a quelque chose qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, qui est un forum qui regroupe les pays arctiques ainsi que les populations autochtones et qui est basé sur la transparence, sur l'engagement des populations, des ONG, des chercheurs. Il y a énormément de projets scientifiques de coopération très prometteurs.
Rolf Einar Pfeiffer, ambassadeur de Norvège en France, donc franceculture.fr pour écouter l'émission durant 3 ans, pour la télécharger durant 1 an, et on peut écouter aussi l'émission sur l'Arctique, version canadienne, là, du jeudi 29 janvier dernier, franceculture.fr.